Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Beneteau et je suis très heureux d'animer Air Open, le nouveau podcast tennis de l'équipe. Nous enregistrons cette émission avant Wimbledon. Wimbledon, le temple du tennis, qu'est-ce qui rend si spécial Wimbledon? Pourquoi les génies du jeu le préfèrent aux autres? Comment ils se préparent pour tenter de dompter le jeu sur gazon? Tant de questions qu'on se pose pour mieux comprendre la magie de cet endroit et pour tenter d'apporter des réponses, j'ai la chance d'être accompagné par la fine fleur de la rédaction tennis du journal L'Équipe. Nous avons l'homme de lettres mais aussi de chiffres, si vous le suivez sur Twitter, c'est Julien Reboulet. Salut Julien.
Salut Antoine.
La légende, Vincent Cognet. Salut Vincent.
Bonjour.
Et notre envoyé spécial à Wimbledon, Quentin Moinet. Salut Quentin.
Salut Antoine.
Vous êtes dans Air Open. Allez, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Alors, qu'est-ce qui rend le plus vieux tournoi du Grand Chelem si spécial on va le rappeler, il a été créé en 1877. On va commencer par toi, Julien. Qu'est-ce qui le rend spécial, ce tournoi?
La première fois qu'on rentre dans l'enceinte, on perçoit tout de suite qu'on est dans un endroit qui est hors du temps. On est accueilli par des gens en uniforme et puis une fois qu'on a pénétré, on voit plein de fleurs partout, on voit de l'herbe partout parce qu'on aperçoit tout de suite les cours annexes. Et ce qu'on ne voit nulle part, par exemple, et c'est un truc qui est assez marquant quand on tourne sur le tennis toute l'année, on ne voit aucune publicité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marquant. Finalement, on est dans un endroit qui est immaculé en fait. Voilà, il y a des fleurs, il y a du vert, il y a du ciel bleu, mais ça, on sait que c'est pas tout le temps. Mais la première impression, c'est ça, on est dans un endroit calme.
Toi, Vincent, c'est quoi ton ressenti quand tu pénètres pour la première fois dans Wimbledon?
Il y a les couleurs, ce violet et ce vert, qui plaisent ou déplaisent, mais qui identifient immédiatement le tournoi. On sait qu'on est à Wimb. Il y a le bruit de la balle aussi.
Qui est différent par rapport aux autres tournois.
Oui, l'impression un peu feutrée, de soft ball. C'est difficile à exprimer, mais le bruit n'est pas du tout le même que le reste du temps sur le circuit. Il n'y a pas de frénésie, je trouve. Je rejoins Julien sur le côté calme et hors du temps. Il y a de la passion, de l'intérêt et de la passion, mais il n'y a pas de frénésie. On n'est pas dans un monde qui speed, qui hurle, qui crie, qui... Et puis, il y a aussi tous ces interdits que seuls les Anglais peuvent inventer, c'est-à-dire obligé de faire un détour de 500 mètres pour traverser une allée de 2 mètres. On explique au monsieur de la sécurité en uniforme que vraiment on est à la bourre et que c'est une urgence de traverser cette allée le plus vite possible. Et il nous répond « I'm afraid not ». Et on sait que ce n'est pas possible d'insister.
Voilà. Mais on va peut-être demander à Quentin. Tu dis qu'il n'y a pas de frénésie, Vincent, mais moi, j'ai déjà vécu en plus. Il y a la fameuse queue, la fameuse ligne des gens qui attendent pour pénétrer dans le stade. Tu as déjà vécu ça, Quentin, toi?
Ouais, sur des centaines de mètres, c'est assez impressionnant. Ils posent l'attente, certains posent l'attente et restent là pendant plusieurs jours consécutifs. Ils se créent une ambiance très particulière. Après, moi, il y a un autre truc qui me marque avec Wimbledon et qui ne se passe pas sur le site de Wimbledon, c'est les qualifications.
Ouais.
Wimbledon a quand même cette particularité d'être le seul grand chelem où les qualifications ne se disputent pas sur site. Pour protéger l'herbe, évidemment, c'est la grande particularité de ce grand chelem. Mm-hmm. Et donc, ça se dispute quelques kilomètres plus loin, à Roehampton. Je ne sais pas si toi tu as déjà eu l'occasion de disputer les qualifs de Wimbledon.
Non, moi je les ai pas disputés, mais j'y suis même jamais allé. C'est une confession.
Ah ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est une immense étendue d'herbe. C'est complètement hors du temps. On n'a pas du tout l'impression d'être en grand chelem en fait. Les terrains sont collés les uns à côté des autres. Mm-hmm. Les spectateurs passent entre les cours, même pendant les points. On voit des gens qui pique-niquent sur l'herbe au milieu, à côté de joueurs qui s'échauffent. Enfin. C'est une ambiance assez surréaliste et qui, je pense, fait vraiment partie de ce qui rend, ça rend aussi ce tournoi totalement à part.
Il y a aussi, dans ce qui rend ce tournoi à part, toutes ces règles de vie du tournoi, le fait que les qualifications ne se jouent pas sur le même site que le tableau final, ça en fait partie. Allez, quelles sont les autres règles de vie du tournoi qui peuvent paraître choquantes ou qui sont vraiment originales? On va demander à Julien.
Déjà, la première, celle qui est visible de tous ceux qui regardent le tournoi, même à la télévision, c'est évidemment la tenue des joueurs. C'est le seul tournoi au monde où on est obligé d'être habillé tout en blanc. Il y a d'ailleurs eu plus de rigueur sur les dernières années que dans les années 80, où on pouvait voir des joueurs avec un petit peu sur les épaules, oui, une petite couleur. Et c'est devenu assez dingue, au point que certains joueurs doivent même porter un caleçon moins foncé sous leur short, parce qu'avec la transpiration, ça peut apparaître sous le blanc, et ça, c'est inadmissible. Mmh. Et même Roger Federer a dû à un moment donné changer de chaussures en cours de tournoi, puisque il avait des chaussures très très blanches, mais dont la semelle était orange, et ça n'a pas passé le cut.
Pour des admirateurs du tennis tout au long de l'année, vous suivez le tournoi. Est-ce que ça, pour vous, ça a encore du sens, le fait de jouer encore tout en blanc, de garder cette histoire ?
Mais je pense que ça participe simplement du fait de garder la tradition.
Ouais.
C'est-à-dire ils sont uniques au monde, ils en sont très fiers, ils ne veulent absolument pas toucher à ce statut-là, et jouer en blanc fait partie du cérémonial Wimbledon.
C'est vrai que ça fait partie des choses. Ils avancent quand même sur certains points, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai plus l'année exacte en tête, les scores sur les panneaux d'affichage étaient changés à la main, oui, par des préposés ou des ramasseurs de balles. Ouais. C'était des petits carreaux, façon un peu les chiffres et les lettres, qu'on remplaçait au fur et à mesure. C'était assez incroyable. Et ils ne sont venus aux panneaux électroniques, je crois qu'il y a que 3-4 ans maximum.
Je sais qu'il y a aussi quelque chose qui pose problème aux joueurs dans ces règles un petit peu spéciales pour Wimbledon. C'est le fait de jouer le double en 3-7 gagnants. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont des attentes en simple, qui se disent moi, je joue pas le double, parce que si je me retrouve à devoir, après un simple un peu fatigant, jouer un double en 3-7 gagnants, je vais tout simplement pas pouvoir aller aussi loin que je veux. Est-ce que c'est quand même on sent que c'est quelque chose qu'il faut que ça change. T'en penses quoi, toi, Quentin ?
Oui, je pense qu'à minima, il pourrait faire tout le tournoi en 2-7 gagnants et éventuellement la finale en 3-7 gagnants.
Ouais.
C'est vrai que c'est forcément compliqué de doubler si tu es un joueur qui a des ambitions en simple d'aller en deuxième semaine. C'est très compliqué de doubler. Alors, l'avantage du Grand Chelem, c'est que normalement, tu ne joues pas tous les jours. Mais justement, là, si tu dois enchaîner tous les jours un match en 3-7 gagnants en simple, le lendemain double, et faire ça tous les jours, donc tu doubles aussi les entraînements, tu doubles la tension nerveuse, enfin, c'est sur 15 jours, je pense que c'est vraiment beaucoup.
Autant je ne les vois pas changer d'ici demain la règle de la tenue complètement blanche,
ouais,
autant sur ce format du double, j'ai l'impression que ça va quand même arriver assez prochainement, parce que je rappelle que pour la première fois, on va avoir des tie-breaks dans le dernier set à Wimbledon cette année.
Ouais.
Alors ce ne sera pas à 6 jeux partout, ce sera à 12 jeux partout quand ça arrivera. Et ça, c'est une vraie adaptation un petit peu pragmatique, parce que l'an dernier, on avait eu une demi-finale à rallonge entre Anderson et Isner, et qui avait rendu le vainqueur, en l'occurrence Anderson, complètement inapte à disputer une finale en entier, parce qu'il était totalement éreinté par cette demi. Et l'exemple de Nicolas Mahut, il y a 9 ans, n'avait pas suffi, le 70-68 contre Isner. Mais là, ils ont changé cette règle-là. Donc peut-être que le double, ils y viendront aussi, ce qui leur permettrait aussi de faire jouer en double à Wimbledon de grands joueurs de simple, ce qui est très compliqué pour l'instant.
C'est pour ça que ce sont des Anglais. Ils sont férus de tradition, ils y tiennent, mais ils ne sont pas cons.
C'est aussi pour ça qu'ils ont un peu cette spécialité, cette spécificité. Ils s'appellent The Championship, voilà, comme s'il n'y en avait qu'un.
Exactement.
C'est pour eux, c'est le championnat, et il n'y en a pas d'autre. Il y a aussi ce fameux dimanche du milieu, où on ne joue pas. En plus, dans un pays où il pleut beaucoup, alors certes, maintenant, ils ont deux cours dotés d'un toit, ce qui est quand même assez incroyable pour un endroit qui a cette tradition-là. C'est vraiment ça, hein, Wimbledon, Vincent, c'est ce mélange entre la modernité et l'histoire.
Oui, et puis pour le dimanche, il y a un arrangement ancestral avec les riverains. Ils ne veulent absolument pas se mettre à dos les riverains. Donc le deal a été, on joue, mais pas le dimanche. Je pense que c'est une manière de faire reposer le gazon quand même.
Mm-hmm.
Je pense que ça joue aussi. Et même depuis qu'il y a le toit sur le central, il y a une règle, je ne sais pas si elle est écrite ou si c'est un us et coutume, mais qui fait qu'on arrête de jouer à 23h.
D'accord.
Là encore, on peut jouer tard sur le central, mais pas au-delà de 23h. Accord avec les riverains, respect mutuel entre le tournoi et les gens qui habitent là. Et
ça se fait là. Il y a eu le cas l'année dernière, justement, là-dessus, avec la demi-finale Nadal-Djokovic, qui a été arrêté le vendredi à 23h et qui a repris samedi.
Et cette histoire du dimanche, elle est assez dingue, à une époque où la rentabilité passe souvent en premier. Et on se dit, justement, il y a des tournois du Grand Chelem comme Roland-Garros qui commencent le dimanche pour avoir une journée de week-end en plus à offrir aux spectateurs et donc des rentrées d'argent supplémentaires. Et avoir toujours ce dimanche fermé au milieu de Wimbledon, ça fait partie de ces spécificités totalement hors du temps et inimaginables ailleurs.
Ouais. Pour moi aussi, Wimbledon, c'est ce côté bucolique. Alors, je vais parler un petit peu, moi, du côté des joueurs, des entraîneurs. En plus des joueurs français, je sais que c'est très apprécié des Français parce que, en gros, on sort de cette folie qu'est Roland-Garros pour un joueur de tennis français. Et là, on est au calme. On est dans un village, le Wimbledon Village, où la plupart des joueuses et des joueurs louent des maisons dans ce village. C'est un petit village très sympathique où il y a des petits cafés. Moi, par exemple, on va faire ses courses pour remplir le frigo de ces fameuses maisons. Et moi, j'ai vécu cette scène où j'ai vu Raphaël Nadal faire ses courses dans un mini supermarché, comme tout le monde. Il a mis 12 minutes pour choisir une huile d'olive parce que je pense qu'il a un dégoût spéciaux pour cela. Ou alors j'ai vu Grigor Dimitrov en vélo, pareil, avec son panier de courses devant. C'est ce côté-là de Wimbledon qui est quand même le tournoi le plus prestigieux du monde. Et quand même, on a l'impression que les joueurs et les joueuses reviennent à des choses simples.
Ah oui, déjà parce que personne ne se jette sur eux pour prendre un selfie ou leur demander un autographe. Ils font leur course comme monsieur tout le monde.
Les perches à selfie sont interdites dans le stade de Wimbledon. Je te laisse continuer.
Merci Wimbledon, bravo Wimbledon. C'est vraiment un tournoi fabuleux. Non, personne les ennuie, personne ne se jette sur eux pour un selfie, un autographe. Ils font leur course. Comme monsieur tout le monde, ils prennent leur café le matin dans les cafés de Wimbledon Village, comme monsieur tout le monde. Je pense qu'ils sont tranquilles, ils le savent. Et je pense que dans l'éducation anglaise, en tout cas de ce Wimbledon Village-là, ça fait partie du truc, on ne les en pas.
Voilà. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est vrai que les joueurs souvent louent des maisons et on sait que la vie à l'année de joueur de tennis, à parcourir tous les hôtels qui sont souvent luxueux mais très impersonnels, assez mauvais côté aussi. Et là, de se poser, d'avoir son petit jardin, de retrouver entre guillemets son chez-soi pendant 2-3 semaines, c'est quelque chose qui, à mon avis, vaut cher pour un joueur de tennis.
Ouais, et puis c'est plus facile de faire un barbecue dans la maison que dans la chambre d'hôtel.
C'est plus sûr.
Et puis surtout, on arrive aussi à un moment de la saison, la moitié, où mine de rien, les esprits commencent à être fatigués, même les corps commencent à être fatigués. Donc je crois que vraiment, en plus, ça arrive pile au bon moment pour le joueur, pour ce... Ben voilà, même si... les résultats peuvent être moyens, parce que si on ne maîtrise pas le jeu sur herbe, eh bien, voilà, les résultats peuvent être moyens. Eh bien, c'est une période qui fait du bien à la joueuse ou au joueur de tennis, je trouve.
Ouais, mais est-ce que tout ça, finalement, n'est pas un petit peu, je ne veux pas casser l'ambiance, mais pas un petit peu gâché justement par ce côté ultra rigide. Je me souviens, par exemple, l'année dernière, je repense à l'obligation de jouer en blanc.
Ouais.
Même à l'entraînement, c'est le cas. L'année dernière, je regardais un entraînement d'Andy Murray.
Bien sûr.
Et en plein entraînement, il y a un officiel qui est venu sur le court et qui a demandé à Jimmy Delgado, l'entraîneur d'Andy Murray, de retourner son t-shirt parce que son t-shirt, il y avait trop de noir dessus. Et donc, Jimmy Delgado s'est mis torse nu sur le court sous le regard amusé de son joueur. Il a mis son t-shirt à l'envers pour pouvoir continuer la séance. Un petit peu exagéré, je trouve.
Ouais, t'as raison, Quentin. En fait, il faut savoir que avant le début du tournoi, chaque joueur a le droit à une demi-heure sur les terrains de match de Wimbledon. Les têtes de série, c'est une heure. Donc, c'est pour ça, c'est bien pour un joueur non tête de série de se mettre avec un joueur tête de série. Comme ça, il a plus de temps. Et on doit être tout en blanc à l'entraînement, même les entraîneurs, et moi aussi ça m'est arrivé, donc j'avais un t-shirt blanc, mais mon équipementier de l'époque avait un signe trop gros dessus, et il a fallu effectivement que je le retourne. C'est vrai que parfois c'est un petit peu trop, les extrémistes, je vais oser le mot.
Oui, mais alors ça casse l'ambiance ou ça met l'ambiance, il y a deux façons de voir les choses,
c'est-à-dire
qu'il y aurait plus ça, je pense que ça pourrait finir par manquer, parce qu'encore une fois, il y a que là qu'on voit ces choses-là, il y a une autre règle qui est toujours respectée à Wimbledon, c'est que le vainqueur du tournoi masculin de l'année d'avant, c'est lui qui va ouvrir le tournoi suivant. Et alors là, la légende dit que personne n'a pu toucher au court central, au center court, avant ce premier match. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un autre truc qu'on ne voit qu'à Wimbledon, c'est que deux jours avant le début du tournoi, le samedi, si vous avez la chance d'y passer, dans l'après-midi, vous allez voir quatre dames, pas forcément toutes jeunes, qui vont faire un double sur le centre-court. Et en fait, ces quatre dames sont tirées au sort parmi les fameux members de Wimbledon, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à ce club privé, car on rappelle encore une fois que Wimbledon est un club privé, il y a 565 members. Et donc, chaque année, en fait, quatre dames, parce que elles, normalement, elles abîment moins le gazon que des garçons, font un double dans les conditions réelles, c'est-à-dire avec ramasseur de balles, arbitre, hawk-eye, si on fait un challenge, ouais. Et aucun spectateur, sauf le Royal Box, là où vous voyez pendant le tournoi toutes les célébrités mm-hmm. ou tous les aristocrates anglais qui sont là. Et il y a un double, elle joue un set, je crois simplement, mais on teste tout en fait. On teste le panneau d'affichage.
Ouais,
une répétition générale et ça dure une petite heure grand maximum. Et après, évidemment, le centre-court retrouve son calme jusqu'au lundi.
13h.
13h, voilà, toujours 13h. On sait exactement, c'est ce que disait souvent Federer, c'est cool de savoir un an à l'avance exactement à quelle heure je rejoue.
Il y a un autre aspect dans ces règles un petit peu spéciales pour ce tournoi, c'est il se dit, et je ne sais pas si c'est vrai, et on va en parler, il se dit que le comité d'organisation de Wimbledon choisit les têtes de série du tableau. On a vu que Nadal s'était un petit peu plaint de ce système ces derniers jours. Julien, tu vas nous expliquer exactement quel est le mode d'attribution des têtes de série.
Ça fait 17 ans maintenant, 17 ans, 2002, que Wimbledon ne choisit plus les têtes de série masculines. Ouais. Jusque-là, il y avait un comité d'attribution des têtes de série et ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, ils auraient pu décréter Nick Kyrgios, je ne connais pas son classement cette semaine, est 53e. Ouais. On estime que c'est un danger sur gazon, on va le mettre tête de série 16. Ils pouvaient le faire jusqu'en 2001 sans aucun souci. Et ils ont créé en 2002 un système de classement qui prend à la fois en compte le classement ATP réel, qui rajoute une seconde fois les points gagnés sur gazon dans l'année écoulée,
okay.
Et qui rajoute encore, et là c'est très british et ça devient compliqué, 75% des points gagnés sur gazon l'année d'avant, okay. Encore. Donc ça pondère en fait le classement ATP en rajoutant du gazon là-dedans, parce qu'effectivement le gazon ne concerne que 5 à 6 semaines d'une saison de tennis, et on obtient un vrai classement, mm-hmm. Donc pas un choix, un classement qui est calculé par ordinateur, et qui aboutit évidemment à un changement de certaines positions qui fait par exemple que pour 2019, Nadal, qui est numéro 2 ATP, se retrouvait numéro 3 ouais. dans les têtes de série derrière Federer.
D'accord.
Voilà. Ce n'est donc pas un choix, mais bien un autre classement.
Et en précisant bien que les 32 têtes de série sont automatiquement les 32 meilleurs joueurs du monde.
Ouais.
Mais simplement, c'est la hiérarchie de ces 32 qui est modifiée d'accord. par le comité.
Et juste pour finir là-dessus, la règle n'est pas la même pour les joueuses, où on respecte le classement WTA, sauf si le comité estime qu'il y a un rééquilibrage d'accord. à faire. Et je rappelle que l'an dernier, Serena Williams, qui était 183e mondiale ouais. au moment de Wimbledon, avait été nommée tête de série numéro 25.
D'accord.
Voilà.
On va revenir sur Rafael Nadal, parce que je sais que Julien a passé du temps, un peu de temps avec lui la semaine dernière à Majorque. Quentin, est-ce que tu comprends un petit peu Nadal qui se plaint de ce mode d'attribution?
Bah oui, forcément. Pour lui, ça a un impact énorme. Enfin, énorme. Ça a un impact certain, vu qu'en passant de 2 à 3, il est certain d'affronter... en tout cas, il peut affronter dès les demi-finales Novak Djokovic ouais. ou Roger Federer. Donc, je comprends qu'il se sente un peu floué. Après, je comprends aussi le fait que la saison sur gazon est beaucoup plus courte que les autres et que on puisse, que l'organisation puisse rééquilibrer en prenant les résultats de l'année précédente et en doublant les résultats de l'année en cours, ça ne me paraît pas non plus totalement injuste.
Oui, tu comprends qu'il y ait un classement un petit peu fait sur mesure pour cette période-là de l'année.
Oui, je comprends, mais comme j'ai dit, je comprends aussi que ça puisse en frustrer certains. Mmh. Par contre, ce que je trouve plus étonnant, c'est que ce ne soit pas la même chose pour les garçons et pour les filles.
Oui, ouais, c'est vrai. Pour revenir à Rafael Nadal, Julien, toi qui l'as vu... la semaine dernière, tu as passé 2 jours avec lui. Comment il va? Comment il s'adapte au gazon?
C'était un jour un peu particulier. C'était son deuxième jour sur gazon depuis son titre à Roland-Garros. Et donc pour rappel, il a la chance depuis 2016 de ne pas avoir à quitter Majorque pour s'entraîner sur gazon, puisqu'il y a un tournoi féminin qui se dispute à 10 ouais, km de Palma depuis 2016 et qui lui permet en fait lui d'avoir un cours d'entraînement à disposition. Alors il a tout à fait conscience que le gazon sec de Majorque n'a rien à voir avec celui de Londres, mais ça lui va très bien pour tenter l'adaptation. Alors le jour où on y était, il a eu la malchance de se faire un petit peu mal, en tout cas d'avoir une vraie crainte, et lui on sait que dès qu'il a un doute sur ses appuis, sur ses genoux notamment, il est très très prudent, donc Bah, et voilà, il a joué qu'une heure ce jour-là avant de partir faire quelques examens médicaux. Mais le gazon, là aussi, c'est peut-être une idée reçue, le gazon n'est pas du tout une surface à laquelle Rafael Nadal est allergique. Il a eu une très mauvaise passe entre 2012 et 2016, parce que là, il avait eu des blessures qui le rendaient vraiment très craintif sur ses appuis. Et il explique que, évidemment, sur gazon, il faut vous plier plus, et que donc le genou est mis à contribution de façon différente aux autres surfaces. Mais c'est une surface, en fait, sur laquelle il s'est senti à l'aise dès le début. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup joué au football quand il était jeune ou pas? Pourquoi pas? Mais le seul tournoi du Grand Chelem Junior qu'il a disputé dans sa carrière, c'était Wimbledon. Et il était arrivé en demi-finale directement en 2002, je crois. Donc, c'est pas quelque chose qui lui a posé de problème. Et de 2006 jusqu'à 2011, il était en finale à chaque fois qu'il était à Wimbledon. C'est complètement dingue. Donc, le gazon, en fait, pour lui, est en fait moins gênant et presque moins dangereux que les surfaces en dur.
Pour les foot tennis, je suis sûr qu'ils ont vu cette vidéo de lui où il a 15-16 ans, il répond à une interview et il dit que le gazon, c'est sa surface préférée. Je trouve ça assez drôle.
Non, mais je voulais juste rajouter qu'il a quand même des qualités intrinsèques de joueur qui fait qu'il a, je ne vais pas dire tout pour être fabuleux sur le gazon, mais il a une main incroyable.
Bien sûr. Une très bonne volée.
Il a un revers slice formidable. Je veux dire, il a bon le jeu de jambes, même si c'est moins extraordinaire qu'il y a 10 ans, ça reste quand même un jeu de jambes hors norme. Il a le sens de l'échange, le sens du jeu. Donc, il a quand même des raisons de se régaler sur gazon.
Un petit mot.
Le gazon n'est plus du tout le même qu'il y a une vingtaine d'années. Il est très ralenti, en particulier en deuxième semaine, où il y a beaucoup plus de sable, de terre au fond du court. Donc, à mesure qu'il avance, pour lui, le danger principal, c'est presque la première semaine finalement.
Oui, bien sûr.
Il ne faudrait pas qu'il tombe, par exemple, sur un Kyrgios en feu dans les deux ou trois premiers tours, là où il n'est pas encore totalement réglé, et face à un adversaire qui a un gros serveur. Comme ça lui est arrivé dans le passé, Gilles, voilà, des joueurs comme ça, de perdre assez vite, mais sinon, il fait partie des trois grands favoris de Wimbledon.
Oui, tu as complètement raison, et ça me permet de rebondir là-dessus, sur la qualité du gazon et sur le type de gazon. Parce que moi, par exemple, j'ai joué le tournoi Les Qualifs à Newport, où c'est le club du Hall of Fame du tennis. C'est un club très, très traditionnel aussi, et c'est du vrai gazon comme il se jouait à l'époque. Et j'ai aussi joué quelques balles sur le gazon de Wimbledon, et c'est vrai que ça n'a vraiment rien à voir. Il faut dire qu'à Newport, la balle rebondit à peine. Le style de jeu qui est développé est fait pour les serveurs volleyeurs, parce qu'il est tout simplement quasi impossible de jouer des coups du fond de court, alors qu'aujourd'hui, à Wimbledon. D'ailleurs, on a vu l'année où ça a changé. Les deux joueurs qui étaient en finale, c'était Nalbandian et Witt. Donc, il faut vraiment souligner que ce n'est plus du tout le jeu sur gazon qu'il y a.
En fait, Wimbledon a œuvré en ralentissant les conditions de jeu, en faisant un gazon qui n'en est plus vraiment. Il y en a un, c'en est un, mais tellement plus ralenti qu'en fait Wimbledon a œuvré à réaliser ce que beaucoup d'organisateurs voulaient, je ne sais pas pourquoi, qui est d'uniformiser toutes les surfaces. C'est-à-dire que ce soit en dur, en terre ou en gazon, en caricaturant à l'extrême, alors je vais caricaturer, mais en caricaturant à l'extrême, c'est la même surface.
Ouais.
Je me souviens même d'une phrase d'Andy Murray il y a quelques années prononcée en salle de presse de Roland Garros, et je pense que c'était tout sauf une blague, qui disait, le central de Roland-Garros, pour moi, je le trouve plus rapide que le central de Wimb. Alors, il y avait à la fois de la provoque et le sens de la formule demeurait, mais je pense que ça correspondait aussi à une réalité.
C'est vrai qu'avant, il fallait absolument faire service volé sur gazon, et on oublie souvent que Bjorn Borg, quand il gagne ses Wimbledon, il fait service volé, il n'attend pas au fond comme à Roland-Garros. Et qu'on a bien vu, et d'ailleurs, et Federer, quand il bat Pete Sampras à Wimbledon quand il est tout jeune, il fait service volé.
Absolument.
Aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors, même si, peut-être depuis 2017, il le fait un peu plus, mais il ne fait pas beaucoup service volé non plus. C'est quelque chose qui a vraiment disparu, et il suffit de regarder l'état d'usure du gazon pour se rendre compte que ce n'est pas la même qu'avant.
On pourrait presque résumer la situation en disant il fut une époque, avant 2001, où rester au fond sur herbe, c'était un suicide. Voilà.
Ouais.
Voilà, en gros, c'est ça. La formule à peu près.
Ouais.
Il y a eu, à l'approche de ce Wimbledon, il y a eu une petite, Une petite polémique, on a parlé d'Andy Murray, et on sait qu'il va jouer le double. Il a d'ailleurs gagné son tournoi de retour avec Feliciano Lopez au Queens. Donc on sait qu'il recherchait activement un partenaire pour le double à Wimbledon. Et il y a eu cette polémique où il a demandé à Nicolas Mahut de jouer, et Nicolas Mahut a dit non. Parce que Nicolas Mahut s'était engagé avec Édouard Roger-Vasselin. On sait que Nicolas Mahut ne jouait pas avec Pierre Hugerbert parce que Pierre Hugerbert lui a dit qu'il voulait se concentrer sur le simple, sur Roland-Garros et Wimbledon, parce que justement, on l'a dit plus tôt, il y a ces matchs en 3-7 gagnants à Wimbledon en double, et donc ça pompe du jus. Et puis là, on apprend que Andy Murray va jouer le double avec Pierre Hugerbert à Wimbledon cette année. Déjà, est-ce que vous comprenez que Pierre Hugerbert ait dit oui ?
Moi, je ne comprends pas comment il pourrait ne pas comprendre que ça a un impact sur la suite de leur association.
D'accord.
C'est-à-dire que il a l'air de, enfin, je sais pas, il a l'air de dire bon, ça va, c'est une fois, c'est Murray, etc. Mais c'est vraiment méconnaître Nicolas Mahut et puis même le fondement de ce qu'est une véritable équipe de double, fondée, je pense, sur des liens personnels très forts, que je ne comprends pas que Herbert ne se rende pas compte ou fasse semblant de ne pas se rendre compte que ça aura automatiquement un impact sur leur future relation.
Oui, je pense que tout le monde peut se rendre compte, à l'inverse, du kiff que ça représente de jouer Wimbledon avec Andy Murray. Ça, c'est une chose, c'est sûr. Je pense que l'histoire a été très compliquée. C'est vraiment un billard à plus de trois bandes. Parce que, en fait, ce qui se passe, et je pense que c'est peut-être un piège un peu dans lequel est tombé Pierre Hugerbert, c'est que le discours du clan Murray, c'était Andy Murray veut reprendre, il veut faire le double à Wimbledon, bien sûr, faire son maximum, mais aujourd'hui, il n'y a aucune garantie sur l'état dans lequel sera Andy Murray au moment de Wimbledon.
Est-ce qu'il pourra vraiment jouer ? Il s'est fait opérer de la hanche.
Exactement, il a eu cette opération de la hanche qui en fait pour l'instant un joueur inapte encore à jouer en simple.
Ouais.
Donc là, il est en reprise, il ne sait pas du tout comment sa hanche pouvait réagir. Là, il a gagné le Queens, donc ça veut dire qu'il joue encore bien au tennis. Mais le discours était, si ça se trouve, au bout de trois jeux, il arrête.
Ouais.
Donc, pour quelqu'un qui fait du double à Wimbledon, un objectif majeur comme Nicolas Mahut, c'était compliqué de se lancer là-dedans. Et à l'inverse, le piège dans lequel est peut-être tombé Pierre Hugerbert, c'est de se dire, c'est une expérience géniale, c'est peut-être un one-shot, il n'y aura peut-être qu'un seul match. Mais imaginez que ça joue bien, imaginez qu'ils aillent loin dans le tournoi. Imaginez qu'ils tombent contre l'équipe Mahut-Roger-Vasselin.
Ouais.
Quelle ambiance. Imaginez qu'ils gagnent le titre. Imaginez qu'ils fassent 5-7 à la veille de son premier huitième de finale à Wimbledon en simple. Tous ces paramètres-là peuvent rendre l'aventure qui, à la base, peut être extraordinaire.
Ouais, bien sûr.
Ça peut la rendre un peu compliquée. Et je rejoins Vincent sur les petites fêlures que tout ça peut créer dans la complicité qui unissait jusque-là Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut, qui, je le rappelle, ont un objectif majeur, c'est se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020.
Ouais, c'est leur objectif,
dont la course,
les JO de Tokyo.
Dont la course commence maintenant.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut quand même être dans les meilleures équipes du monde au classement ATP au lendemain de Roland-Garros 2020. Donc le tournoi de Wimbledon 2019 compte pour la course au JO.
C'est la première étape.
Et toi, Quentin, tu en penses quoi ?
Bah déjà, c'est pas très grave. Au pire, il pourra aller à Tokyo avec Édouard Roger-Vasselin. S'il prend le Masters après, ouais, on sait jamais. Sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, Julien, c'est le fait justement qu'il y avait un doute sur Andy Murray, sur son physique. C'est aussi la raison pour laquelle Jamie Murray, parce que ça pouvait paraître évident d'associer les frères Murray à Wimbledon, mais lui aussi avait dit, Jamie, le problème c'est que moi j'ai des points importants à prendre. Si jamais au bout de trois jeux il abandonne, pour moi c'est terrible. Donc je pense que ça c'est rentré dans la réflexion de Mahut, effectivement. Et moi j'attends de voir maintenant, après Wimbledon, comment ça va se passer entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir un froid ? Est-ce que ça va casser quelque chose dans leur relation qui est très forte quand même ?
Oui, bien sûr.
J'ai du mal à imaginer que ça puisse n'avoir aucun impact.
Moi, je pense qu'ils ont quand même, ils sont quand même assez intelligents les deux. Ils savent que voilà, ils ont écrit, ils ont fait leur palmarès et leur carrière en double, leur grand chelem ensemble. Ils savent que c'est le dernier truc qui leur manque avec le Masters. Et c'est aussi un de leurs objectifs sur cette fin de saison. Donc, il va y avoir quand même... voilà, il y a des motifs pour dire, OK, on est intelligent, il y a eu cette période-là, on oublie, on reparle d'avant.
Ce sera intéressant de voir tout ça au mois d'août.
Non, on n'est pas obligé d'être les meilleurs copains du monde pour faire une grande équipe de double. Après, il y a au moins un de ces deux protagonistes de ce double qui est très sensible, très émotif, qui est beaucoup dans l'émotion, etc. Et Est-ce que ça n'aura aucun impact?
Oui.
On ne peut pas le dire.
Sachant qu'il y a eu le cas de figure s'est posé dans plusieurs cas, c'est-à-dire que Kristina Mladenovic, elle a dit non à Andy Murray parce qu'il lui a proposé de jouer le double mixte. Et elle, Kristina Mladenovic, elle a dit « je ne peux pas tout faire ».
Et là, c'est à peu près aussi difficile à comprendre finalement que le choix de Pierre Hugerbert, parce que Kristina Mladenovic a très longtemps joué les trois tableaux en grand chelem.
C'est ça qui est intéressant.
Elle a même gagné le double mixte plusieurs fois avec Daniel Nestor.
Exactement.
Peut-être qu'elle estime que Andy Murray n'a pas le niveau.
C'est possible aussi. Faudra lui demander.
Non, peut-être pas.
Elle est numéro un mondial, hein, ne l'oubliez pas.
C'est vrai. Et plus loin.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, c'est assez fort. Il faut le souligner. Il faut le souligner. On touche à la fin de ce premier épisode de Air Open. Merci tous les trois. Merci Vincent. Merci Julien et merci Quentin à Londres. Régale-toi à Londres. Tu nous enverras des nouvelles. N'hésitez pas aussi à réagir à ce premier épisode d'Air Open. Ça a été un plaisir. Et on vous retrouve très bientôt avec toute la rédaction tennis du journal L'Équipe.